cœur. T'es déshonneur. T'aurais dû mettre un costard. T'as pas eu le temps de t'expliquer. Allez, hop, tu t'es retrouvé.
Bonsoir, c'est Onde Noire, une émission sur l'actualité du polar présentée par l'association La Noiraude. Et ce soir, on touche vraiment à l'actualité puisque dans quelques instants, on parlera avec Jake Lamar qui vient d'avoir un prix. Jacques, je te laisse le présenter.
Oui, donc Jake Lamar est un auteur américain qui vit en France depuis 1993. Donc, il parle très bien le français, ce qui nous facilitera l'interview. Il a écrit 6 romans, dont 2 ont été traduits en français pour l'instant. Le premier, Le Caméléon Noir, qui est paru chez Rivage Noir en 2003. Et le second, Nous avions un rêve, qui a été traduit cette année dans la collection Thriller. Mais ce roman date de 1996.
En VO. Il est paru aux États-Unis en 1996.
Et une troisième parution est prévue pour 2007. Ça s'appelle Rendez-vous 18e.
Et pourquoi nous l'interviewons ce soir? Dis-nous tout, Jacques.
Parce qu'il a eu le mois dernier, ou peut-être un petit peu, il y a quelques semaines, le prix Cognac du roman noir étranger.
Ce qui est quand même un des grands prix au
Festival du film
de littérature policière.
Au Festival du film policier de Cognac.
Voilà, donc tu présentes aussi la petite morceau de musique qu'on va passer maintenant.
En attendant qu'on puisse le joindre au téléphone, un petit morceau de Jimi Hendrix qui s'appelle If Six Was Nine, que l'on a choisi parce que le titre original de son premier roman, paru en français, Le Caméléon Noir, était une allusion à Jimi Hendrix et s'appelait If Six Were Nine. Donc, Jimi Hendrix.
Voilà, pour passer plus de temps avec Jake Lamar, on a chanté le morceau de Jimi Hendrix qui se référait à son premier livre. Jake Lamar, bonsoir.
Bonsoir.
Donc, nous sommes très contents de vous avoir. Donc, on va parler ce soir surtout de Nous avions un rêve, donc le dernier roman paru en français. Ce roman s'appelait en VO donc The Last Integrationist, sans l'accent évidemment.
Jake Lamar, est-ce que vous pourriez nous le répéter avec le bon accent? Parce que là, c'est assez lamentable quand même.
The Last Integrationist.
Voilà, c'est beaucoup mieux.
C'est nettement mieux, voilà. Donc, c'est un roman, disons, légèrement futuriste qui met en scène, entre autres, Melville Hutchinson, qui est le premier attorney général afro-américain.
Oui.
Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, nous, du moins sur le vieux continent, c'est un ministre de la justice plutôt ultra-réactionnaire.
Oui, exactement. Oui, en fait, Melvin a commencé sa carrière comme un avocat pour le droit civique et il est devenu de plus en plus conservateur pendant des années et au début du roman, il est dans un gouvernement de l'extrême droite, en fait, oui.
Voilà, moi je voudrais citer simplement 2 lignes d'une déclaration de Melvin. Je suis convaincue depuis quelque temps déjà que l'Amérique n'a pas besoin de plus de prisons, mais de plus d'exécutions. Je crois que ça cerne bien le personnage.
Oui.
Et je voudrais savoir si ce personnage est inspiré d'une série de personnages réels ou d'un personnage qui a vraiment existé. Est-ce que vous êtes inspiré de quelqu'un de connu aux États-Unis? Enfin, on en connaît certains, hein, mais un peu.
Oui, en fait, une chose un peu bizarre pour moi était que quand j'ai commencé à écrire le livre en 91, Melvin était plus ou moins un produit de mon imagination, mais avec des années, il y avait de plus en plus noirs très conservateurs, très en vue aux États-Unis, particulièrement Clarence Thomas, le seul noir dans la Cour suprême maintenant. Mais j'ai commencé Thomas n'était pas encore sur la Cour suprême quand j'ai commencé le livre. Donc il y a de plus en plus noirs comme Condoleezza Rice et beaucoup de gens dans les médias qui ont des attitudes très dures et très conservateurs.
Et donc, bon, ce roman, l'intrigue du roman est basée un petit peu sur l'évolution de la carrière de Melvin Hutchinson, avec, il va pratiquement devenir vice-président, mais il y a un secret qui va, disons, nuire à son ascension.
Oui.
C'est ce qui en fait donc un roman noir.
C'est ce qui en fait donc, effectivement, un roman noir. Mais dans ce roman, vous êtes quand même... assez pessimiste, disons, sur la condition des Noirs, des Afro-Américains aux États-Unis. En fait, il semble, d'après vous, ou peut-être d'après votre vision, qu'ils sont amenés à reproduire les attitudes qu'ils ont à la fois apprises et subies de la part des Blancs.
Et le livre... à l'époque où j'ai commencé à écrire ce livre, c'était juste après la guerre froide, et j'avais l'impression que les politiciens américains ont cherché un nouvel ennemi, et ils ont choisi un bouc émissaire traditionnel, les Noirs pauvres. Et à l'époque, il y avait une rhétorique qui disait que les jeunes noirs sans emploi, sans espoir, constituaient une menace pour la civilisation. En même temps, il y avait des sociologues qui disaient que les noirs étaient génétiquement inférieurs. J'étais très troublé par cette rhétorique. Et j'ai pensé, alors, si un groupe social est une menace pour la civilisation et génétiquement inférieur, il y a une solution finale pour ce problème. Et ça, c'était une de mes inspirations. Et le livre décrit un scénario cauchemardesque. Et le livre a aussi un côté satirique. Donc, j'ai imaginé un complot bizarre et horrifiant. Mais je ne voulais pas dire que ça c'était la réalité. Le livre reflète des attitudes qui existent dans les cœurs des gens aux États-Unis. Mais je ne voulais pas dire que ça c'est le cauchemar où nous sommes maintenant.
Mais donc dans les deux livres, parce que dans Le Caméléon Noir, on retrouve la même, un petit peu la même thématique, même si l'histoire est complètement différente. Donc vous parlez effectivement de la condition des Noirs, mais vous, il y a quand même des passages où vous dénoncez clairement le fait que une petite partie de la population noire a pas forcément bien réagi en voulant absolument devenir aussi terrible que les WASP américains.
Oui. Et il y a beaucoup de méfiance vis-à-vis les blancs et les noirs aux États-Unis qui n'est pas reconnu. Et je crois qu'il y a aujourd'hui une espèce de ségrégation choisie que les...
Ça me rappelle quelques termes d'un de nos ministres actuels. Ségrégation choisie, bon, enfin... Il y a beaucoup de choses qui sont semblables.
Oui.
Et pensez-vous donc que, du coup, une véritable intégration est impossible, et comme, pour reprendre en fait le titre du roman, que le rêve de Martin Luther King ne va rester qu'un rêve?
Oui, à l'époque, oui, ça c'était mon attitude, que le rêve de Martin Luther King est mort avec lui. Je continue de tenir un peu d'espoir que peut-être les Noirs et les Blancs aux États-Unis peuvent avoir une vraie compréhension et s'embrasse, mais certainement quand j'ai écrit ce livre, je n'étais pas pleine d'espoir pour l'avenir.
Mais l'espoir est quand même assez infime quand on voit le dernier événement qui nous est arrivé en France. Il y a d'autres peut-être plus petits événements qui ne nous ont pas été racontés, mais quand on voit ce qui s'est passé à la Nouvelle-Orléans après le passage du cyclone, c'est vrai que l'ensemble des populations pauvres ont été particulièrement touchées, mais de ce que nous on a entendu, c'est surtout la population noire qui a trinqué.
Oui, mais ça c'est le système américain qui est toujours les plus pauvres sont des noirs et à mes yeux tout a commencé avec l'esclavage et l'esclavage était surtout un système de caste, c'est-à-dire un ordre social et économique basé sur l'hérédité. Après la fin de l'esclavage, il y avait des autres méthodes de perpétuer ce système, la ségrégation, le refus de le droit de vote, le lynchage, et avec le mouvement pour le droit civique pendant les années 50 et 60, le système de caste était presque détruit, mais il durait d'une certaine manière, et quand on voit que il y a des générations et des immigrés qui viennent aux États-Unis et réussissent, mais en bas de l'échelle sociale, on trouve toujours les Noirs. Et pour moi, ça c'est les vestiges de ce système de caste.
On espère que ce sera plus longtemps des vestiges, mais on en doute quand même un petit peu. On va revenir un peu au roman, Jacques.
Au roman, oui, pour changer aussi un tout petit peu de sujet. Dans ce roman, il y a aussi un point que vous développez beaucoup, c'est en fait la place de la télévision et de ce que devient la télévision, c'est-à-dire ce qu'on commence un petit peu à voir nous aussi en France, c'est-à-dire la télé-réalité qui va dans le roman jusqu'à pratiquement organiser la première pendaison en direct comme si c'était un simple divertissement du samedi soir.
Oui, oui. Et moi, je suis toujours certain qu'un jour, une exécution sera télévisée aux États-Unis. Ça n'est pas encore arrivé, mais quand j'ai écrit le livre, j'ai pensé que ça va arriver pendant le 21e siècle. Je suis un peu surpris que ça n'est pas encore arrivé, mais je crois qu'un jour ça ne serait pas comme le spectacle dans le livre, mais je crois que la première diffusion d'une exécution sera traitée dans une manière très solennelle et il sera une injection létale, mais je crois que ça va arriver.
Et est-ce que vous pensez, donc là c'est un tout petit peu exagéré pour le moment, mais comme vous dites ça va peut-être arriver, est-ce que la place de la télévision aux États-Unis, qui semble avoir une place encore plus importante que chez nous, participe de cette pauvreté, participe de la différence qu'il existe, dont on entend parler actuellement, entre les très très riches et ceux qui profitent à fond du système, et puis ceux qui en sont complètement exclus?
Oui, en fait, je crois que aux États-Unis, oui, la télé est très importante et je crois que d'une certaine manière, la télé c'est la colle pour la société, parce qu'on a les gens de racines très différents autour du pays, mais tout le monde regarde les mêmes émissions et oui. Tout le monde regarde Donald Trump dit vous êtes viré et le American Idol, une émission de talent pour les inconnus d'être célèbres. Et je crois que les images de la matérialisme, l'idée que d'être riche est le seul but de la vie, je crois que cette idée est diffusée tout le temps aux États-Unis. Et je crois que une raison pour laquelle on ne voit pas un grand mouvement social contre la pauvreté et parce que tout le monde pense qu'un jour je serai riche.
Mmh. Oui, parce que c'est exactement ce qui se passe en France, quoi. Et par rapport au livre, donc nous avions un rêve aux États-Unis, il est paru, si je ne m'abuse, en 96, c'est ça?
Oui, exactement.
Est-ce que, moi j'aimerais savoir un petit peu, je suppose que vous avez gardé beaucoup de relations avec des amis, des copains afro-américains, comme on dit. Quelle a été leur réaction? Parce que c'est très très nuancé, donc la vie que vous décrivez des Noirs là-bas.
Il y a beaucoup de lecteurs noirs qui adorent ces livres. Très heureux par la réaction des lecteurs ordinaires noirs, mais dans l'establishment littéraire à New York, il y avait des journalistes et des universitaires qui étaient très horrifiés par ce livre parce que c'était une vision si dure et si pessimiste. Et je crois qu'il y a beaucoup des antelots noirs aux États-Unis qui préfèrent de chercher pour une bonne consensus, on dit en France.
C'est ça, tout à fait, oui.
Consensus. Ouais, tout à fait.
Et il n'aime pas les satires, les satires raciales. Donc, oui, il y avait, pas beaucoup de gens, mais un petit groupe de antelots qui ont détesté ce livre.
Est-ce que c'est donc pour cela que vous avez choisi d'émigrer en France?
Non, en fait, c'était presque par hasard que je suis arrivé en France après la publication de mon premier livre, qui n'était pas un roman. En fait, c'était un récit autobiographique qui était publié en 1991. J'ai gagné un prix, une bourse, et je suis allé, avec l'argent que j'ai gagné, je suis allé à Paris et j'ai pensé que j'allais rester pour un an. Et j'ai adoré la ville tout de suite, et donc je suis resté en deuxième an, en troisième an, et j'ai rencontré ma femme après 3 ans à Paris, et donc je suis resté. Mais c'était pas un choix contre les États-Unis, bien sûr. Je peux être très dur contre les choses qui je trouve ridicules ou offensives dans la société américaine, mais je n'ai pas trouvé ma vie aux États-Unis insupportable. J'avais mes amis et comme j'ai dit, j'ai tenu un peu d'espoir, mais c'était pas une réjection des États-Unis, c'est juste que j'adore ma vie en France.
Et est-ce que vous envisagez alors un retour prochain aux États-Unis?
Pour une visite, en juin, je vais là pour 2 semaines, mais je n'envisage pas un retour pour plus de vacances.
Et donc une dernière petite question là, puisque le temps passe vite. Votre prochain roman apparaître en français, donc qui s'appelle Rendez-vous 18e,
oui.
Se passe cette fois-ci à Paris.
Oui, ce livre a été publié aux États-Unis en 2003 et c'était mon premier roman qui se déroule à Paris dans le 18e arrondissement. Et c'est un roman noir avec des expatriés américains, des Français, des Africains, tout le monde mélangé dans ce quartier où j'habite, le 18e arrondissement. Et en fait, Paris est le 18e. Et presque des personnages dans le livre.
Est-ce qu'on pense, excusez-moi, j'ai une question comme ça. Est-ce qu'on est, quand on écrit sur la population expatriée comme ça, est-ce qu'on pense à Chester Himes qui a eu un petit peu ce parcours-là?
Oui, et j'ai lu plusieurs romans de Chester Himes, mais je n'ai jamais lu ce livre sur la communauté afro-américaine à Paris. Il y a un livre qui s'appelle A Case of Rape, en anglais, en viol, je crois.
J'avoue que je ne me souviens plus du titre en français.
Oui, mais je n'ai jamais lu parce que je ne peux pas trouver le livre en anglais et je préfère de lire Himes dans son sa version originale mais je suis inspiré par toujours par sa voix, son humour, sa vision dure et amusante en même temps.
Et donc ce roman va sortir en France bientôt?
Au début de 2007, oui, Rendez-vous 18e, ça sera publié au début de 2007, je ne sais pas quel mois, mais l'année prochaine.
En attendant, nos auditeurs vont pouvoir se régaler avec Nous avions un rêve, que nous recommandons hautement, parce que c'est un livre qui nous a beaucoup plu, aussi bien par le style que par l'histoire, que par l'ensemble des choses qui sont dénoncées et racontées.
Et aussi le Camélon noir, qui est toujours disponible et qui est...
au moins aussi hautement recommandable. Jake Lamar, merci infiniment, en plus d'avoir fait toute cette interview en français, que je sais que vous maîtrisez parfaitement le français maintenant, mais enfin, c'est pas toujours...
j'ai fait un effort.
Voilà, et ben, je vous remercie beaucoup.
Merci
et
à
bientôt.
Vous tous les deux.
Et revenez-nous des États-Unis. Hein.
Ok.
merci beaucoup, au revoir.
Goodbye.
Au revoir, bye bye.